Alors, le 7 octobre dernier a marqué le 10e anniversaire de ce jour de 2001 où le président Bush lança la machine de guerre américaine contre l'Afghanistan, un mois à peine après les attentats suicides du 11 septembre qui avaient fait plus de 3000 victimes. Le caractère spectaculaire, meurtrier de ces attentats contre un symbole de la puissance des États-Unis avait été un choc pour la population américaine. Les dirigeants de la première puissance mondiale se devaient de réaffirmer la toute-puissance de l'ordre impérialiste. En bombardant l'Afghanistan, Bush voulait montrer au peuple et aux potentats du tiers-monde ce qu'il pouvait en coûter de s'attaquer à l'impérialisme dans son propre bastion. Mais était-ce le seul enjeu de ce choix ? Et pourquoi, 10 ans après, les États-Unis sont-ils toujours embourbés dans la guerre ? Telles sont les questions que nous allons discuter ce soir. Mais comme nous le verrons, les réponses à ces questions dépassent très largement le cadre de l'Afghanistan, tout comme les conséquences de la guerre actuelle. Car on ne peut parler de l'Afghanistan sans parler aussi du Pakistan, à la fois parce que ce dernier a été l'instrument de la politique de l'impérialisme en Afghanistan depuis 3 décennies, mais aussi parce que c'est dans une ville garnison du Pakistan qu'après 10 années de guerre, l'armée américaine a fini par retrouver Ben Laden. Et c'est ce même Pakistan qui sert de base arrière à bien des groupes insurgés afghans, avec la complicité de l'armée et des services secrets pakistanais. Et même au-delà de la période récente, l'Afghanistan, le Pakistan et en fait toute la région qui les entoure sont liés par leur histoire et en particulier par les contradictions que cette partie du monde a héritées de l'époque coloniale où elle fut dominée par l'Empire britannique. Alors si l'exposé de ce soir porte avant tout sur l'Afghanistan et sur l'impasse dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les États-Unis, nous y parlerons aussi beaucoup du Pakistan et de l'Inde, qui a aussi sa place dans ces événements. Et sur ce sujet, je passe la parole à notre camarade Maud Nathan.
L'Afghanistan occupe la position d'un carrefour géographique au confluent du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud. Au nord, il a des frontières communes avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, 3 ex-républiques soviétiques. À l'est, c'est avec la Chine, au sud, avec le Pakistan et à l'ouest, avec l'Iran. L'Afghanistan est un haut plateau, traversé d'est en ouest par les chaînes montagneuses du Pamir et de l'Hindou Kush, extension de l'Himalaya, qui ont fait du pays un obstacle naturel. Le climat aride et très continental a fortement marqué le mode de vie des peuples essentiellement nomades et agriculteurs qui y ont cohabité. Des vagues d'envahisseurs ont traversé l'Afghanistan pour fondre sur l'Inde, fort riche, à sa porte, laissant chacun derrière eux des traces de leur civilisation, de leurs coutumes, de leur langue, à l'origine de la mosaïque des peuples qui composent le pays. Aryens, Grecs, Chinois, Perses, Arabes, Mongols et bien d'autres peuples d'Asie centrale ont laissé des descendants à l'origine de la grande diversité du peuple afghan. L'Afghanistan actuel partage avec les pays qui l'entourent plus d'une dizaine d'ethnies. La plupart de rites musulmans sunnites, et dont 4, comptent plusieurs millions d'individus. Les Pashtuns sont l'ethnie la plus importante avec 40% de la population. Ils sont aussi le 2e groupe ethnique du Pakistan, où ils sont 2 fois plus nombreux qu'en Afghanistan. Les Tadjiks, qui forment près de 30% de la population afghane, et les Ouzbeks, qui en forment 10%, sont présents dans plusieurs pays d'Asie centrale. Les Hazaras, d'origine mongole et de rite musulman chiite, comme les Iraniens, représentent près de 10% de la population. Considérés comme infidèles parce que chiites, ils étaient et sont encore traités comme des parias et persécutés par tous. Quant aux Baloutches, moins nombreux, ils sont dispersés entre l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. 2 langues dominent le pays, le Pashto, langue indo-iranienne, est parlée par les Pashtuns, le Dari, une variante du persan, est parlée par plus de 60% de la population. Alors aujourd'hui, c'est cette position de plaque tournante régionale qui fait de l'Afghanistan, pour son malheur, un enjeu géostratégique pour les dirigeants américains. Mais ce n'est pas nouveau. Cela fait longtemps que l'Afghanistan se trouve au centre de convoitises et de rivalités entre les grandes puissances dans cette partie du monde. En fait, depuis ce que les historiens ont appelé le grand jeu au XIXe siècle, dont la population afghane continue d'être l'otage et avec elle tous les peuples de la région. Alors c'est un admirateur du colonialisme, le romancier anglais Rudyard Kipling, que l'on attribue le terme de « grand jeu » pour décrire le jeu d'échecs auquel se livrèrent les empires britanniques et russes avec la peau des peuples. Ayant achevé la conquête de l'Inde et du Pakistan actuel dès le début du XIXe siècle, les Anglais entreprirent d'anticiper la menace que représentait pour eux l'expansion vers le sud de l'Empire des Tsars. Les Anglais étant arrivés les premiers, l'Afghanistan, situé entre ces deux empires, se trouva d'office dans leur sphère d'influence. Et ils allaient de plus en plus s'immiscer dans les affaires intérieures du pays dans le but de contrôler les défilés montagneux qui menaient aux portes de l'Empire britannique. Dans un premier temps, les Anglais tentèrent d'annexer l'Afghanistan. En 1838, ils marchèrent sur Kaboul pour installer l'une de leurs créatures sur le trône. Mais ils ne parvinrent pas à occuper durablement le pays. En janvier 1842, la retraite d'une partie de leurs troupes, harcelée par la guérilla afghane le long de la passe de Khyber, dans le froid et la neige de l'hiver, se solda par un désastre. 16 500 hommes moururent dans les défilés, dont 4 500 soldats et 12 000 civils qui les accompagnaient. Il n'y eut qu'un seul survivant anglais. À l'issue de cette première guerre, la Grande-Bretagne dut tout de même retirer toutes ses troupes d'Afghanistan, même si elle imposa au nouvel émir afghan d'aligner sa politique étrangère sur la sienne et de rompre toute relation avec les Russes. 35 ans plus tard, en 1878, face à l'avance russe vers le sud, aux portes de son empire, la Grande-Bretagne chercha à imposer le stationnement des troupes britanniques dans les grandes villes d'Afghanistan. L'émir afghan essaya de négocier son allégeance à la Grande-Bretagne en échange d'avantages pour le pays, dont la construction d'une voie de chemin de fer, par exemple. Mais le Parlement britannique refusa, sous prétexte que cela faciliterait l'acheminement des troupes russes en Afghanistan. Lorsque l'émir afghan se tourna vers les Russes pour leur demander une aide économique, ceux-ci se dérobèrent car ils ne souhaitaient pas aller jusqu'à l'affrontement avec les Britanniques. Mais cette tentative suffit à déclencher la deuxième guerre anglo-afghane en 1878. Malgré leur victoire, les Britanniques renoncèrent à occuper l'Afghanistan tout en établissant une sorte de protectorat sur le pays. Cherchant avant tout à se neutraliser plutôt qu'à s'affronter militairement, la Russie tsariste et la Grande-Bretagne firent de l'Afghanistan un état tampon pris entre leurs deux empires, le condamnant ainsi à l'isolement. Bien des traits moyenâgeux ont perduré en Afghanistan du fait de cet isolement et du poids de l'oppression coloniale dans la région. Non seulement le colonialisme anglais renforça les forces féodales les plus conservatrices en s'appuyant sur elles, mais il donna la possibilité au clergé islamique des mollahs de prétendre incarner la résistance afghane face aux infidèles européens, contribuant ainsi à renforcer l'emprise de l'islam. En 1919, un émir afghan réformateur, Amanullah, voulut affranchir l'Afghanistan de la tutelle anglaise qui dictait encore au pays sa politique étrangère. Il déclara la guerre à la Grande-Bretagne et proclama l'indépendance du pays. Tout juste sorti de la Première Guerre mondiale et devant déjà faire face à une mobilisation nationaliste en Inde, la Grande-Bretagne préféra signer rapidement le cessez-le-feu de la Troisième Guerre anglo-afghane. Les frontières de l'Afghanistan indépendant avaient déjà été définies à la fin du XIXe siècle, sur la base du rapport des forces résultant du Grand Jeu. Des lignes artificielles avaient été tracées par Londres et Moscou sans égard pour les intérêts des peuples qui se trouvèrent divisés, ni pour leur histoire, leur langue ou leurs besoins matériels. Au nord-est, dans les montagnes du Pamir, l'Afghanistan se trouva même affublé d'une protubérance en forme de doigt pour éviter une frontière entre l'Empire russe et l'Empire britannique. Outre son arriération, l'Afghanistan indépendant avait donc tout d'une pièce arrachée au patchwork ethnique régional. Tous les éléments qui, par la suite, devaient faire de ce pays un facteur de déstabilisation dans la région s'y trouvaient d'ores et déjà réunis. Un quart de siècle plus tard, l'explosion anticoloniale et sociale qui éclata au sortir de la Deuxième Guerre mondiale dans tout l'Empire britannique des Indes imposa à la Grande-Bretagne d'accélérer le processus de négociation en cours avec les nationalistes. Les Britanniques, qui avaient toujours soufflé sur les braises des antagonismes ethniques et religieux quand ils ne les avaient pas créés, de toutes pièces, présidèrent en 1947 à la partition de l'Inde coloniale entre un État hindou, l'Inde, et un État musulman, le Pakistan. Cette partition permit à l'impérialisme non seulement de jouer sur l'antagonisme entre les deux pays, mais aussi d'éviter l'émergence d'une grande puissance régionale dans le sud-est asiatique. Mais la population paya cette politique d'un bain de sang terrifiant. Selon les estimations, les pogroms firent près de 3 millions de morts de part et d'autre. Il y eut près de 12 millions de réfugiés contraints à fuir l'un des pays pour l'autre, pour se réfugier dans l'autre. Le terrible traumatisme collectif qui en résulta servit aussi à tuer dans les masses populaires indiennes et pakistanaises l'immense espoir de liberté et de progrès qu'avait soulevé le départ des Britanniques, en les enfermant dans l'impasse sanglante des antagonismes religieux. Le fossé de sang creusé à cette occasion permit aux dirigeants des deux pays de dresser leur population l'une contre l'autre et de faire de cet antagonisme le fondement de leur vie politique. À l'issue de cette partition, la situation était la suivante. D'un côté, il y avait l'Inde actuelle, dirigée par le parti du Congrès du Premier ministre Nehru, et qui comptait à l'époque 260 millions d'hindous et 40 millions de musulmans. De l'autre, il y avait le Pakistan, dirigé par la Ligue musulmane de Muhammad Ali Jinnah, avec 80 millions de musulmans et 9 millions d'hindous. Le Pakistan, qui était formé de deux territoires distants l'un de l'autre de 2000 km, était de toute évidence non viable et devait éclater 24 ans plus tard, en 1971, pour donner naissance au Bangladesh actuel. Le nom du nouvel État pakistanais était à lui seul tout un programme. Le P représentait le Pendjab, le A les Afghans Pashtuns du Nord-Ouest, le K le Cachemire, le S le Sindh et le T le Baloutchistan. Dès sa formation, le Pakistan actuel fut donc, comme l'Afghanistan voisin, un patchwork de minorités linguistiques et ethniques multiples. Muhammad Ali Jinnah prétendait construire le Pakistan selon le principe, je le cite, « d'une nation, une culture, une langue », en imposant une unique langue nationale à l'ensemble des minorités du pays, mais surtout en pariant sur le fait que la religion musulmane, commune à la majorité des ethnies pakistanaises, parviendrait à les unifier. Tous les régimes qui suivirent firent de même, utilisant l'islam comme ciment nationaliste. Mais en se servant de la religion, à la fois pour faire contrepoids aux forces ethniques et pour maintenir l'ordre dans la population pauvre, ils facilitèrent le développement d'un intégrisme musulman qui sut utiliser le statut officiel conféré à la religion et les carences de l'État en matière sociale pour asseoir son influence. Avec le début de la guerre froide, le grand jeu reprit, mais cette fois, entre l'impérialisme américain et l'Union soviétique. Il mit également en scène d'autres acteurs dont l'importance varia suivant les périodes, telles l'Inde, l'Iran et après 1949, la Chine de Mao. Sans entrer dans tous les détails, on peut donner quelques points de repère indispensables à la compréhension des événements ultérieurs. Après 1947, l'Inde étant désormais la principale puissance régionale, Washington chercha à s'en faire une alliée. Mais la montée des forces nationalistes au Moyen-Orient fut vite ressentie comme une menace pour les trusts pétroliers. Il faut se souvenir qu'en 1951, un premier ministre iranien, Mossadegh, pourtant bien respectueux de l'ordre impérialiste, ordonna la nationalisation des exploitations pétrolières étrangères. Cela conduisit les dirigeants américains à débarquer Mossadegh, mais aussi à chercher à resserrer leur emprise en trouvant de nouvelles têtes de pont face à un Moyen-Orient travaillé par une certaine agitation nationaliste et sociale. Le Pakistan, petite puissance régionale, constituait une proie idéale et d'autant plus fiable aux yeux des États-Unis que c'était une dictature militaire. En 1954, un accord d'assistance mutuelle de défense entre les États-Unis et le Pakistan donna le feu vert aux livraisons d'armes et à l'implantation de bases militaires américaines, ainsi qu'à la formation d'officiers pakistanais dans les écoles militaires des États-Unis. L'année suivante, Washington obtint du Pakistan qu'il signe avec l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Grande-Bretagne le pacte dit de Bagdad, destiné à protéger les intérêts pétroliers occidentaux contre l'influence soviétique et surtout contre les populations. Après un conflit en 1962 entre la Chine et l'Inde à propos des frontières du Tibet, le Pakistan, appliquant le vieil adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », se rapprocha de la Chine. Par la suite, ces liens entre le Pakistan et la Chine servirent aux États-Unis pour maintenir ouvert un canal de communication avec les dirigeants chinois. Ainsi fut formé un axe Washington-Karachi-Pékin, qui en réaction donna naissance à un axe Moscou-Kaboul-Delhi. Arrêtons-nous un instant sur l'alliance Kaboul-Moscou. De 1947, date de l'indépendance de l'Inde et de la formation du Pakistan, à 1978, l'Afghanistan se retrouva dans l'orbite de l'URSS. Ce ne fut pas faute pour la monarchie afghane des années 50 d'avoir essayé de jouer la carte des États-Unis. En octobre 1954, le prince Daoud, premier ministre afghan, sollicita l'assistance militaire américaine pour équiper et moderniser l'armée afghane face, disait-il, à la dangereuse proximité de l'URSS. Mais les États-Unis refusèrent, ne voulant pas compromettre leur influence naissante sur le Pakistan, voisin rival des Afghans. Cela força Daoud à se tourner vers l'URSS. Les États-Unis laissèrent faire, considérant l'Afghanistan comme un État tampon qui pouvait bien avoir les relations qu'il voulait, tant qu'il restait militairement vierge de toute implantation soviétique. Et ce, d'autant plus qu'il ne présentait à cette époque aucun attrait économique pour les trusts impérialistes. Jusqu'à la fin des années 60, l'aide militaire et technique soviétique représenta les deux tiers du total de l'aide étrangère reçue par l'Afghanistan. Entre 1955 et 1978, 20 000 jeunes militaires afghans furent formés dans les académies militaires soviétiques. Des travaux de modernisation furent aussi entrepris sous l'égide soviétique. Après le pavement des rues de Kaboul et la construction de son aéroport, un tunnel percé dans le massif montagneux de l'Hindou Kush permit d'établir une route directe entre la capitale et le nord du pays. Ce fut d'ailleurs par cette route que les troupes soviétiques devaient marcher sur Kaboul en décembre 1979. Quelle était la vie politique et sociale en Afghanistan avant l'invasion du pays par les troupes soviétiques? De l'indépendance en 1919 à 1973, le pays avait connu un régime monarchique, hésitant selon les périodes entre la volonté de moderniser la société par en haut, notamment en matière de religion et de droits des femmes, et celle de se concilier les milieux conservateurs, religieux et féodaux. Au début des années 60, on assista à une montée de l'agitation politique dans le pays. Bon nombre de petits fonctionnaires, de policiers, d'instituteurs critiquaient l'ordre social injuste dominé par l'aristocratie qui monopolisait la vie politique et sociale, interdisant par exemple aux conscrits d'origine paysanne de devenir officiers. Un vent de contestation se leva, animé par la petite bourgeoisie estudiantine. Le règne du roi Zahir Shah, qui débuta en 1964, fut ainsi marqué par des manifestations et des heurts entre étudiants à l'université de Kaboul. Face à l'immobilisme social du pays, quelques dizaines de milliers de jeunes gens, qui avaient le sentiment de ne pas avoir d'avenir, s'intéressèrent à la politique. Certains se tournèrent vers les idées marxistes, tandis que d'autres, mus par un anticommunisme viscéral, se tournèrent vers l'intégrisme islamique. L'agitation gagna les officiers subalternes de l'armée et le corps des fonctionnaires. Cette opposition se retrouva partagée entre un nouveau parti, le PDPA, Parti démocratique populaire d'Afghanistan, et les groupes intégristes naissants. Le PDPA fut formé en 1965 à l'initiative de trois intellectuels nationalistes, Taraki, Karmal et Amin, qui avaient découvert les idées marxistes lors de leurs études à l'étranger ou en prison. Le parti se divisa très tôt en deux tendances, mais sur le fond, bien que prônant la collaboration avec l'Union soviétique, elle n'avait ni l'une ni l'autre pas grand-chose à voir avec le communisme. Le PDPA, qui compta jusqu'à 40 000 partisans, était une organisation nationaliste faite à l'image de ses dirigeants, de petits bourgeois des villes, indifférents aux sentiments des classes populaires, dans lesquels ils ne voyaient qu'une simple masse de manœuvres pour conquérir le pouvoir dont ils s'estimaient écartés. Quant au groupe islamiste, le premier fut fondé à la fin des années 60 sous le nom de Jamiat-e-Islami, Union de l'Islam, par Rabbani, un professeur de droit coranique, et deux ingénieurs issus de l'école polytechnique de Kaboul, Hekmatyar et Massoud. En juillet 1973, l'ex-premier ministre Daoud déposa le roi Zahir Shah lors d'un coup d'État militaire réalisé avec l'aide d'officiers membres du PDPA. Daoud proclama la République et, dans un premier temps, nomma ministre plusieurs responsables du PDPA. Ce fut à cette époque que se formèrent les premiers maquis intégristes sous l'impulsion de Rabbani, Hekmatyar et Massoud. Ces derniers furent accueillis à bras ouverts par le gouvernement pakistanais, alors dirigé par Ali Bhutto. Ce dernier voulait gêner le régime de Daoud, qui soutenait les revendications des nationalistes baloutches avec lesquels Ali Bhutto était en guerre. Ce fut d'ailleurs avec le soutien d'Ali Bhutto que les partis intégristes afghans organisèrent contre Daoud un soulèvement manqué dans la vallée du Panjshir en juillet 1975. Mais déjà, la résistance intégriste afghane se fracturait, suivant des clivages ethniques. Le Pashtun Hekmatyar constitua un nouveau parti, le Hezb-e-Islami, parti de l'islam, tandis que les Tadjiks Rabbani et Massoud restaient à la tête du Jamiat-e-Islami. Repliés dans le sanctuaire de Peshawar, grande ville pakistanaise proche de la frontière afghane, ces groupes végétèrent jusqu'à ce que l'invasion soviétique et l'aide américaine leur donnent une nouvelle chance de reprendre leur activité en Afghanistan en 1979. Les promesses de Daoud sur la fin des privilèges royaux, la réforme agraire ou l'accès à la santé et à l'éducation pour tous restèrent largement lettre morte. Il tenta de prendre ses distances avec l'URSS et de se rapprocher des États-Unis, écartant les membres du PDPA des postes de responsabilité. De nombreux militants de gauche ainsi que des militants islamistes se retrouvèrent en prison. Le 18 avril 1978, l'un des dirigeants du PDPA fut assassiné. Le PDPA riposta par une grande manifestation à Kaboul à l'occasion des obsèques, qui réunit 10 à 15 000 participants. C'était aussi l'occasion de protester contre le régime conservateur et corrompu de Daoud, qui faisait l'unanimité contre lui. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1978, suite à une nouvelle vague d'arrestations, un groupe d'officiers liés au PDPA renversa le régime de Daoud, avec, semble-t-il, l'assentiment d'une grande partie de la population. Le 30 avril 1978, Taraki, le secrétaire général du PDPA, fut déclaré président de la République, Karmal vice-président et vice-premier ministre, Amin ministre des Affaires étrangères. Le nouveau régime entreprit aussitôt de renouer des rapports plus étroits avec l'URSS. Il tenta de lancer un programme de modernisation, incluant par exemple l'éducation obligatoire pour les femmes adultes et une réforme agraire, mais qui se heurta vite aux pesanteurs sociales du monde rural et surtout à l'opposition des forces conservatrices. Mais pour surmonter cet obstacle, il aurait fallu s'appuyer sur l'adhésion consciente et la participation active de la population. Au lieu de cela, les méthodes brutales du régime attisèrent l'hostilité de couches populaires travaillées par les notables et les mollahs. Le mécontentement gagna l'armée. Beaucoup d'officiers afghans, bien que formés en URSS, désiraient établir un régime islamiste neutre vis-à-vis de l'Union soviétique et plus tourné vers l'impérialisme. L'armée vit ses effectifs fondre, tombant de 80 000 en 1978 à 30 000 fin 1979. La désintégration pure et simple d'une partie de l'appareil d'État rendait la situation de plus en plus incontrôlable. Les dissensions entre les dirigeants du PDPA en lutte pour le contrôle du pouvoir constituaient un facteur supplémentaire de déstabilisation. Le danger était de voir cette déstabilisation faire tache d'huile dans les pays voisins par le biais des liens ethniques ou religieux, et en particulier dans les républiques soviétiques d'Asie centrale, sans parler du risque que l'Afghanistan bascule dans l'orbite impérialiste. Pour parer à tous ces dangers, l'URSS fit le choix d'intervenir militairement, et le 27 décembre 1979, les troupes soviétiques envahirent l'Afghanistan. En choisissant cette politique, les dirigeants soviétiques purent estimer que les dirigeants américains leur laisseraient les mains libres. Et c'est en tout cas un fait. Les États-Unis n'intervèrent pas pour empêcher l'invasion soviétique en Afghanistan. Laisser les dirigeants soviétiques jouer le rôle de gendarmes dans la région n'était pas pour déplaire aux dirigeants américains. Et puis ces derniers n'avaient pas forcément intérêt a abandonné le statu quo en Afghanistan, qu'il considérait toujours comme un état tampon faisant partie de la zone d'influence soviétique. La guerre que mena l'armée russe en Afghanistan entraîna des destructions sans nombre. Pour affaiblir la résistance, l'armée soviétique chercha à isoler les maquis des populations. Elle investit les villages, bombardant les maisons, obligeant ainsi les habitants à fuir. Elle usa de bombes au phosphore et à fragmentation, enterra morts et blessés encore vivants dans des fosses communes. Poussant l'horreur à l'extrême, les experts militaires allèrent jusqu'à concevoir des mines ressemblant à des jouets en plastique destinés à attirer l'attention des enfants. Des mines qui ne pouvaient remplir aucune fonction militaire, mais qui contribuaient à terroriser la population et à l'inciter à fuir. De 1980 à 1986, les campagnes afghanes furent dépeuplées. Les terres, autrefois cultivées, redevinrent arides. 5 millions de personnes, soit près du tiers de sa population, à l'époque, durent s'exiler en Iran ou au Pakistan. Si l'invasion soviétique galvanisa l'opposition au régime du PDPA dans la population, la responsabilité de la montée de l'intégrisme islamique en Afghanistan incombe avant tout à l'impérialisme américain. En effet, il n'était pas fatal que la résistance afghane revête les habits du djihad islamique. Il y avait bien d'autres forces politiques, pas plus insignifiantes que les petits groupes intégristes d'alors. Et comme toujours dans les pays pauvres, l'impérialisme choisit de se servir des forces les plus réactionnaires pour promouvoir ses intérêts, à la fois contre l'Union soviétique, mais aussi contre les peuples. Ce furent donc
les groupes islamistes que Washington propulsa sur le devant de la scène. Pour mener cette politique, les États-Unis se servirent du Pakistan, devenu encore plus précieux comme allié dans la région depuis la défection de l'Iran en 79, après le renversement du régime du Shah, qui avait été jusque-là le principal pilier régional de l'ordre impérialiste. Le Pakistan devint le troisième bénéficiaire de l'aide militaire des États-Unis dans le monde, après Israël et l'Égypte. L'armée pakistanaise et surtout ses services secrets, l'ISI, Inter Service Intelligence, devinrent les instruments de sa politique. Bien que n'étant pas le plus important, ce fut le parti islamiste Pashtun Dekmatyar, le Hezb-e-Islami, le plus intégriste et le plus anti-occidental, qui, grâce à ses liens anciens avec l'armée pakistanaise et en particulier avec les services secrets de l'ISI, fut le principal bénéficiaire de cette situation. Il reçut plus de la moitié de l'aide américaine et devint le parti le plus riche, le mieux armé et le mieux organisé de la résistance afghane. On peut néanmoins penser que les responsables américains ne suivirent pas l'ISI aveuglément et que, tout comme celle-ci, ils voulurent jouer la carte du nationalisme pashtoun. L'ISI fut chargé de la distribution à la résistance afghane des armes américaines et des quelque 5 milliards de dollars versés par les États-Unis entre 1980 et 1992. Le flot de dollars et des armes entraîna l'apparition d'une multitude de groupes de résistants afghans en compétition pour le contrôle des zones de guérilla, pour le recrutement de volontaires parmi les millions d'Afghans exilés et surtout pour la répartition des fonds et des armes. Ces groupes avaient une base plus ou moins ethnique et en général locale, à laquelle certains ajoutaient une allégeance à telle ou telle version de l'islam. Ceux qui avaient une réelle présence sur le terrain étaient probablement aussi soucieux, sinon plus, de défendre leur territoire contre des groupes de résistants rivaux que de lutter contre l'occupation soviétique. Ces soi-disant résistants, armés et financés par l'impérialisme, étaient avant tout des seigneurs de guerre, doublés bien souvent de gangsters, pour lesquels la religion n'était qu'un instrument destiné à encadrer les populations et à couvrir leur trafic. Face à la résistance afghane, mais surtout à l'hostilité de la population, l'URSS avait dû engager toujours plus de troupes. Une armée moderne, forte de 120 000 hommes et dotée de puissants moyens aériens, dut payer de plus de 13 000 morts le seul fait de contrôler les principales villes du pays et les principaux axes de communication, sans jamais réussir à prendre pied dans les zones montagneuses. Et lorsque l'administration Reagan livra aux résistants afghans des armes anti-aériennes individuelles portables, les Russes perdirent même la maîtrise totale du ciel qu'ils avaient eue auparavant. L'armée russe connut finalement le même sort que l'armée française en Algérie et que l'armée américaine au Vietnam. Elle dut battre en retraite, incapable de vaincre militairement une résistance armée s'appuyant sur l'hostilité de toute une population. Finalement, Gorbatchev organisa le départ des troupes soviétiques qui quittèrent définitivement l'Afghanistan le 15 février 1989. Avec la fin de la guerre froide, une nouvelle période s'ouvrit. Un nouveau grand jeu débuta autour de l'Afghanistan, dans lequel, cette fois, l'impérialisme américain était la seule grande puissance face à de multiples candidats au rôle de puissance régionale tels le Pakistan, l'Iran, l'Inde et la Chine, et plus loin derrière, les cinq républiques d'Asie centrale issues de l'éclatement de l'URSS. En Afghanistan, Najibullah, membre du PDPA et ancien chef des services spéciaux afghans, avait été nommé président en 1987 par les Russes. La fin de l'URSS en 1991 affaiblit son pouvoir. En avril 1992, son régime se désintégra après que par pans entiers, une grande partie de l'armée et de la police se soit finalement ralliée à l'une ou l'autre des factions islamistes. Celles-ci entrèrent alors dans Kaboul. Les Nations Unies célébrèrent la formation d'un gouvernement baptisé « démocratique » pour la circonstance, alors qu'il ne devait le pouvoir qu'aux armes que lui avait fourni l'impérialisme. Le nouveau pouvoir, qui se proclama gouvernement islamiste, s'appuyait sur une coalition des 10 principales organisations de l'ex-résistance islamiste. Mais à peine installée dans Kaboul, cette coalition éclata, déchirée par les luttes de clans. Ce fut le début d'une guerre, non pas civile dans le sens où la population afghane aurait pris part au combat, mais une guerre entre appareils militaires rivaux. Cette guerre, dont la population fut l'otage et la victime, allait durer 4 ans, plongeant de nouveau le pays dans un chaos sanglant. 4 principaux clans, aux contours mal définis, s'affrontaient, parmi lesquels on trouvait les Tadjiks Rabani et Massoud, le Pachtoun Hekmatyar et Dostom, seigneur de guerre ouzbek, ancien général du PDPA, qui, après avoir lâché Najibullah, s'était constitué à titre privé un véritable État indépendant au nord du pays. Chacun de ces clans ne cessa de combattre les 3 autres, formant toutes les combinaisons d'alliances imaginables pour tenter d'écraser leurs rivaux. Les combats pour le contrôle de la capitale, devenus l'enjeu de la lutte pour la conquête du pouvoir, opposèrent une coalition formée par Rabani, Massoud et Dostom aux troupes d'Hekmatyar. Kaboul, épargné jusque-là malgré les 10 années de guerre contre l'occupation soviétique, fut presque totalement détruite. 40 à 50 000 civils périrent sous les bombardements, pendant que des centaines de milliers d'autres durent fuir la ville. Massoud s'y illustra en particulier par le massacre de la minorité Hazara de la ville. Depuis le départ des troupes soviétiques en 1989, l'Afghanistan semblait avoir cessé d'intéresser l'impérialisme. Mais l'interminable guerre entre les appareils militaires des seigneurs de guerre afghans commençait à inquiéter les dirigeants impérialistes. Chaque ethnie afghane avait des liens avec un ou plusieurs des pays voisins, marqués eux-mêmes par une certaine instabilité politique, et ayant chacun sa carte politique à jouer et ses intérêts à défendre. Outre ce risque réel de contagion pour les pays voisins, la région présentait un nouvel enjeu sur le plan économique. En effet, la disparition de l'URSS ouvrait la possibilité aux trusts occidentaux d'accéder au gaz du Turkménistan et au pétrole du Kazakhstan. De nombreuses compagnies pétrolières se bousculaient sur les rangs, telles l'américaine Unocal, la saoudienne Delta Oil Company ou l'argentine Bridas, sans compter les sociétés chinoises. Or, pour amener cette manne vers les marchés occidentaux, il n'y avait que 3 voies de transit économiquement viables. 2 d'entre elles, la Russie et l'Iran, étaient politiquement inacceptables pour les dirigeants américains. Restait la 3e, via l'Afghanistan et le Pakistan. Mais pour cela, encore fallait-il que règne une certaine sécurité en Afghanistan. Le problème de la stabilisation politique du pays prit donc une nouvelle importance pour l'impérialisme qui souhaitait réserver les possibilités de pillage des trusts occidentaux. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la montée des talibans, dont le régime allait, dans un premier temps, être bien accueilli par les dirigeants américains. À l'origine, le terme taliban désigne des étudiants en religion, de l'arabe taleb qui signifie étudiant. Les talibans afghans étaient originaires des camps de réfugiés au Pakistan, situés près de la frontière afghane. Des centaines d'écoles coraniques ou madrasas gratuites y avaient été créées par le parti intégriste pakistanais, Jamiat Ulema et Islami. Les élèves pauvres, souvent orphelins, la plupart pachtounes, y étaient encadrés et formés aux préceptes du Coran. La guerre contre l'occupation soviétique contribua à politiser et militariser les madrassas. C'est parmi ces étudiants des madrassas que les services secrets pakistanais de l'ISI avait trouvé des recrues pour rejoindre les forces d'Ekmatyar. Et ce fut, parmi les anciens djihadistes et des jeunes issus des madrassas, à qui l'on avait inculqué l'envie d'en découdre au nom de la guerre sainte, qu'un nouveau mouvement pachtoun apparut en 1994, dirigé par un certain Mollah Omar. En choisissant le nom de Taliban, ce mouvement voulait se présenter comme un mouvement neuf, désireux de réformer la société conformément aux principes islamiques, par opposition à la corruption des seigneurs de guerre. Devant les succès des talibans portés par le nationalisme pachtoun, les services secrets pakistanais de l'ISI mirent leurs ressources à leur service et le gouvernement pakistanais, dirigé alors par la fille d'Ali Bhutto, Benazir Bhutto, soutenu par le parti intégriste Jamiat Ulema Islami, appuya cette politique. Mais le soutien du Pakistan aux talibans fut forcément apporté avec l'assentiment, sinon l'aide directe, des États-Unis. D'autant que les talibans bénéficièrent des subsides d'autres alliés de Washington, comme l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Si les talibans parvinrent relativement aisément à s'emparer du pouvoir en moins de 2 ans, c'est qu'ils n'eurent pas affronté de véritables appareils d'État, mais des forces atomisées. Grâce aux moyens matériels fournis par le Pakistan, ils purent acheter le ralliement de bien des chefs de guerre et remporter des succès militaires qui leur permirent de recruter de nouvelles troupes, de les armer, de les nourrir. Mais dans un pays où tout le monde avait des armes, et où la population s'était endurcie par tant d'années de guerre, les talibans, relativement faibles numériquement puisqu'ils ne comptaient pas plus de 25 000 combattants, ne purent asseoir leur contrôle sur des régions entières contre la volonté d'une population hostile. Ils se présentaient comme les champions de la lutte contre la corruption, la rapacité des propriétaires féodaux et les exactions des seigneurs de guerre. En soignant leur image austère de combattants désintéressés, ils purent recueillir, tout au moins au départ, l'assentiment résigné d'une population exténuée par la guerre. Leur progression fut cependant plus facile en milieu pachtoun qu'ailleurs. De nombreux témoignages rapportés par les médias occidentaux ont révélé avec quelle brutalité le régime taliban a imposé à la population une bigoterie fanatique visant à instaurer une dictature digne du Moyen-Âge. Du jour au lendemain, il fut interdit aux femmes de travailler, alors qu'elles représentaient le quart des fonctionnaires de la capitale, l'ensemble du corps enseignant des écoles élémentaires, ainsi qu'une grande partie des professionnels de la santé. C'en était fini de l'école, non seulement pour les filles, mais aussi bien souvent pour les garçons. Le port de la burqa devint obligatoire. Bientôt, les organismes humanitaires, dont dépendaient pourtant des dizaines de milliers de familles, furent chassés. La misère, voire la famine, s'abattit sur la population afghane. Les femmes ne pouvaient plus se faire soigner, puisqu'elles n'avaient pas le droit de consulter un médecin homme. Télévision, cassettes vidéo, antennes paraboliques, musique et jeux, dont les échecs, le football et même le cerf-volant, jeu très populaire en Afghanistan, furent interdits. La nouvelle police religieuse des talibans entreprit de faire respecter la charia à la lettre. Les flagellations, les amputations, les décapitations, les pendaisons ou les lapidations étaient infligées en public et les corps des condamnés souvent exposés à la vue de tous. À Kaboul, le stade de Ghazi devint tristement célèbre comme le lieu d'horribles exécutions où les talibans forçaient les hommes à assister à d'odieux spectacles, voire à y participer en lapidant les victimes. Les femmes n'avaient le droit de sortir qu'accompagnées par un parent proche de sexe masculin. Si les nervis des talibans trouvaient une femme seule dans la rue, ils la fouettaient sur place. Mais une résistance silencieuse a permis de braver certains interdits. Beaucoup d'hommes afghans ont sauvé des femmes s'étant fait arrêter en se faisant passer pour un parent proche. Des infirmières et des femmes médecins, interdites de travail, on put soigner clandestinement les femmes et les petites filles. Des écoles clandestines se sont installées dans les maisons et les appartements. Sous les burqas, les femmes ont caché des manuels scolaires et bien d'autres objets prohibés, tandis qu'on se passait sous le manteau des cassettes vidéo. Une nationaliste afghane du nom de Malala Joya, réfugiée aujourd'hui au Canada, rapporte dans son livre « Au nom de mon peuple » ce qu'elle observa à ce sujet en 1999 à Kaboul. On n'imagine pas le succès que chez nous le film « Titanic ». Les gens s'échangeaient des copies pirates passées en contrebande par la frontière avec l'Iran. Il paraît qu'un mollah aurait fait un sermon dans lequel il disait que ceux qui désobéissaient à Dieu seraient détruits comme le Titanic. Du coup, tout le monde comprit que même ceux qui interdisaient les films les regardaient. Quant à l'impérialisme américain, il salua la victoire des talibans avec satisfaction, comme l'annonce du rétablissement de l'ordre dans le pays. Le quotidien américain Washington Post, proche du parti du président d'alors Bill Clinton, écrivait au lendemain de la prise de Kaboul « La capture étonnante de Kaboul par l'organisation de la milice radicale des talibans représente la meilleure occasion qu'on ait connue depuis des années de mettre un terme à l'anarchie qui accule l'Afghanistan à la ruine depuis l'invasion soviétique. » La compagnie pétrolière américaine Unocal félicita même le nouveau régime, lui promettant l'aide financière internationale s'il ramenait le calme. Avec les talibans, l'impérialisme américain pensait donc régler le problème de l'instabilité politique de l'Afghanistan et disposer en prime d'un contrepoids face à l'Iran. Cette attitude ne changea pas lorsque George Bush Jr. accéda à la présidence en janvier 2001. Que le régime des talibans ait été une dictature obscurantiste importait peu aux dirigeants impérialistes, pas plus que cela leur importe dans bien d'autres pays, tant il est vrai que l'oppression des peuples est partie intégrante de l'ordre impérialiste lui-même. 9 mois après son élection, suite aux attentats du 11 septembre 2001, l'attitude de Bush changea du tout au tout, justifiant la nécessité d'envahir l'Afghanistan et de renverser le régime des talibans par le fait qu'il servait de base arrière aux terroristes d'Al-Qaïda et de leur chef Ben Laden. Les États-Unis ne furent pas seuls pour mener cette guerre. Dès la fin de l'année 2001, ils réunirent derrière eux une coalition de 16 pays, histoire de donner plus de légitimité à cette guerre aux yeux de la population américaine et d'en partager les risques et les coûts financiers. Le président Chirac et son premier ministre socialiste Lionel Jospin décidèrent d'un commun accord d'emboîter le pas à Bush en envoyant des troupes françaises en Afghanistan. L'expédition américaine ne mit que 5 semaines à réduire à néant le régime des talibans. Les porte-paroles du gouvernement des États-Unis osèrent appeler leur terrorisme d'État « Opération Liberté Immuable ». Mais ce qui fut présenté initialement comme une intervention éclair en Afghanistan se transforma en une véritable occupation qui dure maintenant depuis 10 ans. Loin d'amener le retour à la paix ou à la démocratie, elle n'a fait qu'aggraver le sort de la population, y compris des femmes, sans parler de ses conséquences pour toute la région. Cette guerre qui a coûté près de 350 milliards de dollars en 10 ans et qui met en jeu près de 130 000 soldats de l'OTAN a déjà fait parmi la population des dizaines de milliers de victimes tuées ou blessées par les bombardements américains et alliés. Des villages, des dépôts de ravitaillement, des hôpitaux ont été dévastés par des frappes dites chirurgicales. Les bombes à fragmentation ont réapparu, semant la terreur. Des enfants naissent handicapés à cause de la contamination de l'environnement par l'uranium appauvri présent dans beaucoup de munitions. Des tonnes de napalm ont été déversées sur des forêts ou des vallées entières. Lorsqu'un village est soupçonné d'aider des forces de guérilla ou de leur servir de refuge, il est simplement écrasé sous une pluie de bombes qui ne laisse aucun survivant. Usant des mêmes artifices que les militaires soviétiques, les armées impérialistes ont utilisé des mines antipersonnelles ressemblant à de petits jouets, à tel point qu'en 2002, la Croix-Rouge dut faire des campagnes de prévention en direction des enfants. Le pays est truffé de mines et des millions d'Afghans ont été mutilés au cours de toutes ces années de guerre, ce qui fait que dans bien des magasins, des chaussures sont vendues à l'unité, car destinées aux unijambistes. Ainsi, au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, l'impérialisme le plus puissant du monde déploie contre le peuple afghan un terrorisme d'État mille fois plus meurtrier. Hamid Karzai, ancien seigneur de guerre et chef de clan Pashtoun, fut nommé président par intérim par les États-Unis en décembre 2001. Il fut choisi pour les liens qu'il avait maintenus avec le régime des talibans autant qu'avec les milieux royalistes. Le gouvernement qu'il présida fut d'emblée un régime fantoche. Il coopta et recycla d'ex-talibans et des seigneurs de guerre qui étaient surtout déterminés à défendre leur propre parcelle de pouvoir sur leur propre territoire à la tête de leurs propres troupes. Karzai s'est fait élire président à deux reprises, en 2004 et en 2009, à chaque fois dans des conditions frauduleuses. Ses gouvernements successifs n'ont réussi qu'à susciter la haine de la population à force de corruption et de gangstérisme. Des villas et des immeubles luxueux sortent de terre à Kaboul pour les privilégiés du régime, alors que bien des villages n'ont toujours ni eau potable, ni électricité, ni même de routes carrossables. Quant à la culture du pavot, dont la sève sert dans la fabrication de l'opium, elle est florissante. Les talibans l'avaient interdite pour priver les seigneurs de guerre de leurs principales ressources, mais elle a repris de plus belle suite au choix des États-Unis de s'appuyer sur ces mêmes seigneurs de guerre. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'Afghanistan soit l'un des premiers fournisseurs du monde d'opium, ni que le régime de Karzai soit notoirement impliqué dans ces trafics jusqu'au plus haut niveau. Au final, l'intervention impérialiste a remplacé le pouvoir rétrograde des talibans par le pouvoir réactionnaire d'un État corrompu et de seigneurs de guerre tout aussi intégristes que les talibans et tout aussi impitoyables pour la population qu'ils maintiennent sous leur coupe. Cette prétendue démocratie sent la pourriture et la mort. En matière de droits des femmes, le régime de Karzai ne diffère pas beaucoup de celui des talibans. Un certain nombre de lois, des institutions misogynes en vigueur à l'heure actuelle, datent de l'arrivée au pouvoir des factions djihadistes en 1992 et sont restées intactes depuis, sous les talibans comme sous Karzai. C'est le cas du fameux ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice. Plusieurs seigneurs de guerre, à l'origine de ces lois rétrogrades, sont aujourd'hui au pouvoir dans le gouvernement Karzai. Certains sont même responsables des pires crimes contre les femmes et la population en général, sans qu'ils aient jamais été le moins du monde inquiétés. Mais il faut dire que Karzai, les talibans et autres seigneurs de guerre afghans ne sont pas seuls à porter la responsabilité des conditions de vie odieuses imposées aux femmes afghanes. Le colonialisme, qui a bloqué le développement économique, social et culturel du pays, puis l'impérialisme, qui a aggravé ce blocage, ont eu, eux aussi, une lourde responsabilité. Car pour l'essentiel, le statut des femmes afghanes est resté le même pendant très longtemps, celui d'une marchandise comme les autres, avec un prix qu'il fallait payer pour en prendre possession. Ainsi, le futur mari devait-il fournir à son futur beau-père de l'argent, des bêtes, des tapis, voire des lopins de terre en échange de la femme que sa belle famille allait lui céder. La valeur de la femme devait donc être jalousement préservée. Du même coup, si une femme n'était plus vierge avant le mariage, elle perdait toute valeur. La vertu d'une femme était donc considérée comme un capital par les hommes, qui leur interdisaient le moindre contact avec d'autres mâles que ceux de leur famille immédiate. Le châtiment d'une femme qui avait perdu sa virginité avant le mariage était la mort. Son père, son frère, comme son fiancé, avaient le droit de vie et de mort sur elle. L'accusation ou même le soupçon d'adultère condamnait la femme à mourir avec le consentement du mari et du père. Les divorces n'existaient pas car cela aurait été considéré comme une insulte par la belle famille. Et même si de timides réformes virent le jour, telles celles qui en 1959 rendit facultatif le port de la burqa et favorisa l'éducation des filles, la situation des femmes afghanes ne changea guère. Ces mesures ne touchèrent vraiment que les couches aisées des villes, tandis que les campagnes afghanes restèrent marquées par la même arriération. Aujourd'hui, sans doute, une minorité de femmes, essentiellement parmi les classes aisées à Kaboul et dans le nord du pays, a connu une certaine amélioration après la chute des talibans, limitée cependant par la menace permanente des milices intégristes. Mais les droits de l'écrasante majorité des femmes sont revenus à ce qu'ils étaient il y a un siècle, inexistants. Dans la plupart des cas, il est toujours dangereux pour elles de sortir sans burqa et sans être accompagnées. D'après le Fonds des Nations Unies pour la population, 25% des femmes afghanes sont victimes de violences sexuelles. Les mariages forcés sont le lot de la majorité, les jeunes filles restant échangées et vendues comme des marchandises. Telles, par exemple, ces tristement célèbres fiancées de l'opium, que les familles de paysans, réduites à cultiver du pavot pour ne pas mourir de faim, sont obligées de céder aux seigneurs de la drogue en réparation de leurs dettes lorsque les récoltes sont mauvaises. Pour échapper à leurs souffrances, des centaines de femmes se font brûler vives. Hamid Karzai gouverne avec des intégristes qui continuent de prêcher, je cite, qu'une femme doit être dans sa maison ou dans la tombe. Parfois la bêtise le dispute à l'arriération, telle celle de ce mollah Chinwari, nommé président de la Cour suprême par Karzai de 2001 à 2006, qui déclara dans une interview que les femmes n'étaient pas à leur place à la dite Cour suprême. Car pour cet intégriste pur et dur, mais quelque peu sénile, je le cite. Si une femme devenait un juge de premier plan, que se passerait-il tous les mois quand elle aurait son cycle menstruel et ne pourrait aller à la mosquée? Plus récemment, en mars 2009, Karzai signa sous la pression des dignitaires religieux chiites, dont il espérait le soutien, un code familial chiite destiné aux seules familles de cette obédience religieuse. Ce code était si réactionnaire, en particulier du point de vue du droit des femmes, qu'elles descendirent dans les rues. Du coup, les puissances occidentales se sentirent obligées d'exiger que ce code soit amendé. Mais la nouvelle version ne comportait que des changements de détails et ôtait aux femmes chiites la plupart des droits que leur reconnaît la Constitution. Ainsi, elles n'ont plus de droits sur leurs enfants. Leurs maris peuvent les priver de tout, y compris de nourriture, si elles refusent de se soumettre à leurs exigences sexuelles. Elles doivent obtenir leur permission pour avoir le droit de travailler. Un violeur peut même payer un droit du sang à la famille pour éviter des poursuites si sa victime est blessée au cours du viol. Alors, quel est le bilan de l'occupation américaine de l'Afghanistan ? Y aura-t-il un retrait des troupes impérialistes, comme l'a promis Obama ? Tout d'abord, il faut dire que malgré tout le tintamarre médiatique fait autour de l'exécution de Ben Laden, les dirigeants américains n'ont pas de quoi se vanter. Il leur aura quand même fallu près de 10 ans de guerre pour qu'ils arrivent à leur fin, c'est-à-dire qu'ils réussissent à repérer celui qu'ils avaient désigné comme l'ennemi public numéro 1 de leur guerre contre le terrorisme, installé sur le territoire du Pakistan, leur principal allié régional, dans une ferme située à moins d'une heure de voiture du quartier général de Lizzi. Si le ridicule pouvait tuer, les Bush, les Obama et tous les galonnés qui dirigent l'armée américaine ne seraient plus de ce monde. Mais malheureusement, les seuls qui auront payé de leur peau la folie meurtrière de leurs dirigeants, ce sont les 2700 soldats américains morts, les 14 000 blessés, et surtout un nombre bien plus grand de victimes afghanes, 10 ou 20 fois, sinon plus. Mais bien sûr, même à supposer que Ben Laden et Al-Qaïda aient été leur principale cible au départ, cela fait bien longtemps que les dirigeants impérialistes ont à faire face à de tout autres problèmes, à commencer par la montée en puissance des opérations des groupes insurgés au fil des années, qui n'a cédé ni aux opérations de bombardement, ni aux opérations de quadrillage au sol qui ont été employées tour à tour. De sorte qu'aujourd'hui, contrairement à ce que répètent les dirigeants occidentaux, on est loin d'un rétablissement de la paix ou d'une stabilisation du pays. On est même en train d'assister depuis cet été à une aggravation de la situation. Des attentats survenus ces derniers mois ont visé de hauts dignitaires, tels le frère d'Hamid Karzai, personnalité influente du régime, assassiné en juillet dernier dans son fief de Kandahar au sud du pays. Ou encore l'ancien président Rabbani, tué dans un attentat suicide à Kaboul le 20 septembre dernier, alors qu'il était chargé depuis 2010, au nom du Haut Conseil pour la paix, de discuter avec les groupes de la résistance. Ces faits suggèrent que les terroristes ont bénéficié de complicité au plus haut sommet de l'État afghan, y compris au sein de l'armée elle-même. Quant aux troupes d'occupation, si elles ont subi moins de pertes cette année qu'en 2010, elles en ont eu plus que dans chacune des 8 premières années de la guerre. Et surtout cette année, ce sont les troupes afghanes qui ont été le plus touchées. Enfin, pour la population afghane, vous en doutez, le bilan est terrifiant. Quelques chiffres en donnent une idée. L'espérance de vie ne dépasse pas 44 ans, c'est-à-dire moins qu'au Mali, où elle est de 49 ans. Le taux de mortalité infantile est de 149 pour 1000, alors que celui des États-Unis est de 6 pour 1000. 20% des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Au moins 60% de la population active est au chômage. 70% des Afghans survivent avec moins de 1,5 € par jour. Plus de la moitié des hommes et 80% des femmes sont illettrés. 70% de la population rurale n'a pas accès à l'eau potable. L'augmentation des prix est telle que beaucoup de femmes, notamment les centaines de milliers de veuves, près d'1,5 million, en sont réduites à abandonner leur enfant à l'orphelinat ou à vendre leur bébé pour survivre et nourrir leurs autres enfants. L'Afghanistan a reçu pourtant depuis 2001 près de 26 milliards de dollars destinés au développement du pays. Sauf qu'un seul milliard a été consacré à l'éducation et un autre à la santé. Où sont passés les autres milliards? Eh bien, ils se sont perdus dans les méandres du business militaro-humanitaire et de la corruption. Des sommes astronomiques provenant à la fois des budgets militaires des puissances belligérantes et de l'aide humanitaire paient les services de multiples entreprises de sécurité et compagnies de mercenaires. Depuis la fin de la guerre froide, ces derniers remplacent dans bien des pays impérialistes l'armée professionnelle, avec l'avantage, dans le cas des États-Unis, de ne pas être responsable devant le Congrès. Par ailleurs, leurs pertes ne sont même pas comptabilisées. En Afghanistan, ces mercenaires peuvent protéger les responsables afghans ou occidentaux. Ils peuvent être employés à faire de l'humanitaire, comme à monter des opérations militaires, gérer des prisons privées, des salles de torture, y mener des interrogatoires, tel le centre de détention situé à proximité de la base aérienne américaine de Bagram, et dans lequel des centaines de détenus sont incarcérés sans inculpation ni assistance d'aucune sorte. Parmi les sociétés militaires privées en activité en Afghanistan, on peut citer la société britannique Saladin, qui emploie 2000 hommes chargés de la sécurité de l'ambassade canadienne à Kaboul, ou la société américaine DynCorp, qui assure la protection du président Hamid Karzai. Le nombre de ces mercenaires employés en Afghanistan s'élève aujourd'hui à plus de 100 000. Autant dire que même si l'armée américaine retirait ses troupes en 2014, ce qui est loin d'être certain, l'Afghanistan n'est pas prêt d'être débarrassé de l'occupation occidentale. Beaucoup d'ONG sont en place en Afghanistan depuis maintenant plusieurs décennies. Bon nombre d'entre elles rendent de grands services à la population afghane, mais il s'avère qu'une bonne part des milliards dont les ONG disposent disparaît dans les poches de fonctionnaires corrompus et de parasites en tout genre ou de sociétés spécialisées qui profitent de la guerre et des souffrances qu'elle engendre pour faire du business. D'après Integrity Watch Afghanistan, certains membres du personnel de l'Agence américaine pour le développement international gagnent 22 000 $ par mois. Ceci dans un pays où les fonctionnaires ne gagnent pas plus de 70 $ par mois. L'ONG britannique Oxfam estime pour sa part que 40% de l'aide occidentale à l'Afghanistan retourne au pays donateur sous forme de commandes aux entreprises occidentales et de salaires payés aux consultants.